Bonjour à tous, au micro Sylvie Ligi qui a le plaisir de vous présenter le nouveau numéro des Chroniques pour la paix, émission bimensuelle parrainée par La Paix Maintenant et G-Call. Dans la nuit du 12 au 13 juin, Israël lançait une attaque contre l'Iran dans le but de neutraliser les capacités du régime des Mollahs à fabriquer la bombe. L'armée de l'air, et notamment les pilotes, ainsi que les services du Mossad, ont brillamment montré de quoi ils sont capables et ont infligé de lourdes pertes à l'Iran dans le domaine nucléaire. Mais Israël aussi a subi des dommages très lourds sur son propre territoire. Les missiles iraniens ont fait 29 morts, 3000 blessés. Ils ont également détruit des immeubles d'habitation à Bat Yam, à Nestiona, près de Tel Aviv. À l'hôpital Soroka, à Beersheva, l'Institut Weizmann ont également été touchés et bien d'autres localités ont souffert. Israël n'avait jamais subi de tels dommages. La guerre contre l'Iran a été une nouvelle occasion de mobilisation pour la société civile, dont Achim Laneshek, Achim Vahachot Laneshek, c'est-à-dire en français « frères et sœurs d'armes », est sans doute le mouvement le plus emblématique. Nous sommes aujourd'hui en ligne avec Yifat Virzer, qui milite très activement pour Achim Vahachot Laneshek. Bonjour Yifat.
Bonjour Sylvie.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Voilà, alors donc pendant cette guerre, le système d'alarme israélien, très performant, a permis aux habitants menacés par les missiles iraniens de se réfugier dans leur mamad. Le mamad, c'est la pièce blindée prévue à cet effet à l'intérieur des maisons. Mais un nombre important, très important même, d'immeubles et de maisons individuelles sont dépourvus de mamad. Alors, qu'est-ce que les gens ont fait quand les sirènes se mettaient à hurler ?
Alors, tout à fait, Sylvie. Effectivement, comme vous le dites, le mamad, c'est surtout, en fait, dans les nouveaux immeubles. Depuis, je crois, 1991, depuis la guerre avec l'Irak, en fait, où Israël avait reçu des bombardements de Scud à l'époque, le mamad était devenu, en fait, une pièce blindée obligatoire dans les nouveaux appartements, qui permettait donc aux gens de l'intégrer immédiatement dès qu'il y avait une alerte. Ceci étant dit, la plupart des immeubles à Tel Aviv encore aujourd'hui, je crois que le chiffre dont on parle, c'est quand même 78%, sont des immeubles anciens qui sont dépourvus de mamad et qui donc doivent se reposer sur l'abri, qui est en général l'abri souterrain, qui dessert tous les habitants de cet immeuble. Ce qui se passe, oui. C'est que souvent ces abris, en fait, sont vétustes. Et ils ne sont pas équipés. Je dirais qu'il y a deux malfonctionnements, si vous voulez. Il y a au niveau logistique, où comme ils sont mal entretenus, ils sont même, je dirais, inutilisables, parce que leur système d'aération, de ventilation, par exemple, n'est plus fonctionnel, parce qu'ils ne sont plus du tout étanches, la porte ne ferme pas. Donc, il y a une série de problèmes qui fait que, finalement, les habitants ne sont pas protégés quand ils doivent intégrer cet abri. Et la deuxième chose qui manque, c'est qu'en fait, avec le temps, ces abris sont devenus un petit peu, je dirais, les hangars des habitants de l'immeuble. Et donc, quand il y a alerte et qu'on doit descendre dans l'abri, alors, on se retrouve un petit peu dans un espèce de hangar qui n'est pas du tout équipé pour recevoir des gens, certainement pas à passer une nuit entière. Donc, il manque de matelas, il manque, comme je l'ai dit, un système d'aération et de ventilation.
Voilà, alors qu'est-ce que frères et sœurs d'armes font
alors,
pour leur venir en aide ?
Très, très rapidement, en comprenant le problème, qu'il faut le dire également, même si l'abri est très bien et il est très bien entretenu et qu'il y a tout ce qu'il faut, il y a beaucoup de personnes âgées, par exemple, qui n'arrivent pas à intégrer l'abri en moins d'une minute. Mmh. Parce qu'il faut descendre par les escaliers, des gens qui habitent maintenant dans des immeubles un peu plus hauts, il y a des personnes qui sont handicapées, il y a même des enfants en bas âge. C'est très compliqué d'intégrer un abri. Donc, ce que l'association a fait immédiatement, dès le premier jour de la guerre, en comprenant l'ampleur du problème, c'est qu'elle a aménagé dans des parkings souterrains, dans les centres commerciaux, dans les parkings des centres commerciaux souterrains, des abris qui peuvent accueillir et protéger en fait tous les habitants du voisinage et plus. Et ces abris ont fonctionné à partir du soir jusqu'au lendemain matin et ils comprenaient tout l'équipement qui est nécessaire pour justement accueillir, c'est-à-dire il y avait des tentes, des matelas, il y avait un endroit qui faisait office de salle à manger, un endroit qui faisait office de salle de jeu pour les enfants, il y avait une connexion internet, il y avait l'électricité, il y avait un système même de climatisation, donc il y avait vraiment tout ce qui permet de tout ce qui permettait de laisser une famille passer la nuit là-bas tranquillement et de façon protégée. Ça a été fait, donc, comme je l'ai dit, assez immédiatement, dès le premier jour de la guerre, en contractant, enfin en faisant aussi des accords avec, avec les services municipaux. Et très rapidement, en fait, on a dupliqué. Le premier qui a été ouvert, c'était à Dizengoff Center, qui est un grand shopping mall. Et puis, ça a été dupliqué également à Rishon. Il y en a eu trois en tout à Tel Aviv, un à Rishon et un à Haïfa.
Voilà, et donc, si je comprends bien, en fait, qu'est-ce que frère d'armes, frère et sœur d'armes, parce que je pense qu'en France, on ne vous connaît pas, ou en tous les cas, très mal. Mm-hmm. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots ce que fait votre organisation, Achim Laneshek, frère et sœur d'armes?
Alors, frère et sœur d'armes, en fait, à la base, c'est un mouvement de réservistes qui a été fondé, en fait, en réaction à la refonte judiciaire de janvier 2023, et qui a appelé en fait à la mobilisation civile afin de tirer un petit peu la sonnette d'alarme en vue de l'atteinte, si vous voulez, à la séparation des pouvoirs et l'attaque en fait sur les institutions de la démocratie. L'association aujourd'hui en fait cherche, se positionne comme en fait le défenseur des garants de la démocratie israélienne et cherche à sauvegarder en fait tous ces garants. Et toutes les institutions que nous avons bâties au cours des années d'existence d'Israël afin de permettre la survie du système démocratique en Israël que nous voyons comme largement en fait attaqué.
Mais quel est le rapport entre la survie de la démocratie et installer des lits dans les sous-sols pour...
Je dirais que le rapport, si vous voulez, quelque part, c'est la société civile, en fait. Mm-hmm. Notre association, c'est une association qui est une association phare de la société civile. On est une association qui n'est pas sectorielle, qui n'est pas politique, qui n'est pas partisane. On regroupe, en fait, cet élan, si vous voulez, de civils qui sont inquiets pour leur pays. Et en fait, avec l'ampleur du mouvement autour de la refonte judiciaire et d'autres lois que nous voyons comme des lois qui portent atteinte également à la démocratie, nous avons acquis une force de mobilisation extraordinaire dans tout Israël, du nord au sud, de tous les coins d'Israël. C'est là-dessus qu'en fait, le 7 octobre, avec ce qui s'est passé le 7 octobre qui a pris tout le monde ici au dépourvu, c'est sur cette force de mobilisation que nous avons capitalisé en fait et que nous avons pu donner une réponse immédiate et urgente à tous les gens qui en avaient besoin. Nous avons immédiatement pivoté, si vous voulez, sur une aide d'urgence. Nous étions sur le terrain. Le fait que nous soyons une association de civils qui vient un peu de partout nous a permis d'accéder très rapidement à toutes les zones en danger, à venir sauver des citoyens qui étaient encore en fait sous le feu et les évacuer. Ça nous a permis également par la suite de créer des centres logistiques pour leur donner une aide constante, pour pouvoir les alimenter, pour pouvoir les approvisionner en équipement, les transporter d'un endroit à l'autre. Et c'est vrai qu'il n'y a peut-être pas de rapport, si vous voulez, direct entre la défense de la démocratie d'une part et l'aide en situation d'urgence d'autre part, mais c'est sur cette forme de mobilisation de la société civile qu'en fait nous pouvons donner des réponses opérationnelles concrètes et urgentes quand le besoin est immédiat, comme nous l'avons fait le 7 octobre et par la suite, et comme nous l'avons fait également cette fois avec la guerre contre l'Iran.
Voilà, oui, en fait, la première fois que j'ai entendu parler de votre organisation, c'était dans les premiers jours qui ont suivi le 7 octobre, les horreurs du 7 octobre, période où il fallait organiser le ravitaillement en nourriture, les transports de troupes. Je me rappelle que les vergers croulaient sous les fruits mûrs et qui auraient dû être cueillis et qui ne pouvaient pas l'être. Il y avait aussi, à cette époque, et malheureusement ils sont toujours là, des réfugiés de l'intérieur, des gens qui...
Tout à fait.
Qui n'avaient plus où habiter. Et alors aujourd'hui, si j'ai bien compris, je le disais tout à l'heure, les missiles iraniens ont fait des dégâts considérables, impressionnants dans plusieurs localités en Israël. Et quand un immeuble est touché par un missile aussi puissant que ceux des Iraniens, il s'effondre. Hein. Et du coup, il y a, j'ai lu le chiffre de 13 000 personnes à la rue, c'est de oui. cet ordre-là, oui. Alors, que fait l'État pour venir en aide à ces personnes ?
Alors, à nouveau, l'État, en fait, malheureusement, nous constatons les défaillances de l'État à chaque situation de crise, tout comme après le 7 octobre, où il n'y a pas eu de prise en charge, en fait, des citoyens qui avaient besoin d'être évacués, qui avaient besoin d'être relogés, qui avaient besoin d'être alimentés et réapprovisionnés en denrées de base. Mm-hmm. Et dans ce cas-là, on voit également la même chose, c'est-à-dire que les gens sont logés dans les hôtels. Ils ont même été souvent logés dans des hôtels qui n'ont pas d'abri et qui n'ont pas de mamad. Donc imaginez le traumatisme pour ces gens-là, dont l'appartement a été détruit par un missile, d'un tir direct, et qui se retrouvent dans un hôtel où ils n'ont même pas la possibilité de se protéger. Et à nouveau, et c'est eux qui doivent se battre face aux services publics pour pouvoir en fait être indemnisés et pour pouvoir continuer à être logés. C'est une lutte sans relâche, en fait. Alors oui, nous aidons, nous intervenons. Nous intervenons surtout au début pour leur donner justement les réponses les plus concrètes, les besoins les plus concrets, les plus primaires, si je peux dire. Par la suite, c'est vrai qu'il s'agit d'une lutte qu'ils font avec les services publics qui doivent les servir. Après le 7 octobre, la paralysie de l'État a duré beaucoup plus longtemps. Et là, il y a eu vraiment une intervention qui fait qu'on était sur le terrain pour donner vraiment les choses les plus basiques. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'était également le transport des soldats, c'était ravitailler les citoyens, mais également les soldats. C'était les choses vraiment les plus fondamentales qui n'ont pas été traitées par l'État.
Alors, il me semble que vous menez également des actions dans les commissions parlementaires, des choses comme ça.
Alors voilà, en fait, comme vous l'avez dit justement, l'association a surtout, enfin, elle a été connue surtout après le 7 octobre parce qu'elle a été engagée directement sur le terrain. Et c'était en fait l'association phare, parce que à nouveau, comme je l'ai dit, c'est l'association la plus importante aujourd'hui en Israël en termes de bénévoles. On a un réseau de bénévoles de plus de 100 000 personnes qui sont prêtes à se mobiliser à tout moment et qui sont très motivées. Nous sommes nés autour de la défense de la démocratie israélienne.
Oui.
Et aujourd'hui, au-delà de la contestation, on nous voit dans les rues, on nous voit dans les manifestations, on nous voit protester contre ce qu'il se passe. Au-delà de cela, nous avons également des objectifs bien définis. Nous sommes une association à part entière, hein, si je peux dire. Donc, on a des objectifs, on a une feuille de route bien établie, on a des projets que nous menons. Et oui, nous sommes actifs sur tous les terrains, y compris dans les commissions de la Knesset qui sont là pour légiférer des nouvelles lois. Nous tirons à nouveau la sonnette d'alarme quand il y a des lois qui contrent les principes de la démocratie. Et nous veillons toujours à ce qu'il y ait une stricte séparation des pouvoirs pour qu'il y ait ces contre-pouvoirs, justement, pour ne pas sombrer, pour ne pas dériver dans la dictature, en fait. Voilà. Et c'est ça, vraiment, la substance, si vous voulez, ou l'essence de notre action.
Mais écoutez, j'ai encore de très, très nombreuses questions à vous poser. Et c'est un plaisir de vous écouter. Yifat Wirtzer, je vous remercie pour cet éclairage et pour tout le travail que vous faites. Bonne journée.
Bonne journée à vous. Au revoir, Philippe.
Au revoir.